Bonjour, j'espère que vous êtes prêts à être bénis. Aujourd'hui, le message vous sera donné par le pasteur Harrison Conley. C'est notre fils aîné et le pasteur principal de notre église, Cottonwood Church, dans le sud de la Californie. Il a apporté un message brillant tiré de Jacques 4. Si vous avez une Bible, prenez-la. Plongeons quelques minutes ensemble dans la parole de Dieu. Vous serez heureux de l'avoir fait. Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude. Qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses.
Si vous avez votre Bible, lisons Jacques 4, 1, 17. Il écrit et dit ceci, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » J'aime la phrase suivante. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Verset 13. À vous maintenant qui dites, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Vous avez probablement remarqué que, dès le début, Jacques aborde un sujet très délicat. Dès le premier verset, il commence par poser une question poignante, mais rhétorique. Rhétorique dans le sens où il ne demande pas à ses lecteurs de lever la main et de répondre à la question qu'il pose. En fait, il répond tout de suite à sa propre question. Mais nous devons être avertis. Avant d'examiner la réponse, nous devons savoir qu'elle va percer notre cœur comme une flèche. Voici la question que pose Jacques, et c'est une question que nous devons tous considérer personnellement. Au premier verset, il demande « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ?» En examinant cette question, si vous êtes comme moi, à première vue, je regarde cela et je me dis, « Hé, Jacques, il semble que tu poses peut-être la mauvaise question. Peut-être que ce n'est pas tant le « d'où » qui cause les luttes et les querelles parmi vous. Peut-être est-ce plutôt « qui » cause les luttes et les querelles parmi vous. » Car s'il s'agit de « qui », je connais la réponse. C'est mon épouse. Elle est toujours sur mon dos. Peut-être que le « qui » est mon patron. Il n'apprécie jamais tout le travail que je fais. Peut-être que le « qui » provoque les luttes et les querelles, ce sont mes enfants. Ils ne font jamais ce que je dis. La source de la division, la source de la lutte, la source des querelles est en fait quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Ce n'est pas la faute de mon patron ou de ma belle-mère. Si nous pensons, s'ils voyaient les choses à ma façon, qui est bien sûr la bonne, alors tout le monde s'entendrait et nous vivrions tous en harmonie. Jacques dirait, si vous pensez vraiment cela, alors votre vie sera synonyme de chaos, parce que vous ne comprenez pas le problème. Vous passez à côté de la racine du problème. Jacques dirait que le vrai problème ne se trouve pas à l'extérieur, le vrai problème est ici, dans notre cœur. Si nous parvenons à saisir la vérité de ce que Jacques essaie de transmettre, cela pourrait tout changer. Reprenons le texte. Au premier verset, il dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ?» Maintenant, il va donner la réponse. « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» J'aime beaucoup la façon dont Eugene Peterson traduit ce verset dans le message. Il l'exprime ainsi. « D'où viennent, selon vous, toutes ces guerres et ces querelles épouvantables ?» Pensez-vous qu'elles sont le fruit du hasard? Détrompez-vous. Elles surviennent parce que vous cherchez votre propre voie et que vous luttez pour l'obtenir au plus profond de vous-même. Selon ce verset, la raison pour laquelle nous nous battons, qu'il y a des querelles et des divisions parmi nous, c'est parce que nous voulons quelque chose que nous n'obtenons pas. Je veux juste qu'il me respecte, mais il ne le fait pas. Je veux juste que mes enfants écoutent et obéissent, mais ils ne le font pas. Je veux juste qu'on reconnaisse et qu'on apprécie mon travail acharné, mais je ne reçois rien. Et parce que je ne reçois rien, je suis contrarié et frustré. Tous ceux à qui je parle, tous ceux qui voient ma situation difficile, tous ceux qui entendent ma version de l'histoire sont d'accord avec moi. Jacques poursuit en poussant son argumentation un peu plus loin. Ce qu'il dit va sembler exagéré, mais il a raison. Au verset 2, il dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. » Vous êtes meurtrier. Vous vous dites certainement que Jacques exagère un peu. Eh bien, oui, mais non. Parce qu'il essaye de nous faire comprendre que si nous ne reconnaissons pas que la cause première est ici, plutôt qu'à l'extérieur, alors nous portons en nous le potentiel de faire des choses qui non seulement détruisent notre propre vie, mais également celle de ceux qui nous entourent. Jacques dit, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. » Il est important de garder à l'esprit qu'en ce qui concerne le meurtre, Jésus a changé le standard. De son point de vue, il ne s'agit plus seulement de l'acte physique du meurtre. Voici ce que Jésus a dit en Matthieu 5, 21, 22a. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, il va changer le standard. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. » L'apôtre Jean, qui a entendu Jésus dire cela, reprendra cette idée, mais la formulera ainsi en 1 Jean 3,15. « Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. » Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Il faut savoir que c'est extrêmement important, et nous devons tous y prêter attention. Nos désirs incontrôlés portent en eux le potentiel de faire toutes sortes de dégâts, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Jacques poursuit au verset 2. « Vous convoitez, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. » Vous convoitez. Nous regardons les autres. Nous regardons ce que les autres ont et ce qu'ils obtiennent. Et nous avons l'impression que quoi que nous ayons, aussi bien que ce soit, ce n'est jamais assez. Nous avons ce désir insatiable d'en avoir toujours plus. Je dois avoir le plus récent ou le meilleur. Je n'en ai jamais assez. Je ne suis jamais satisfait. Pourquoi ? Le problème fondamental est que lorsque je n'obtiens pas ce que je veux, quelque chose en moi se déclenche et conduit finalement au conflit ou à la lutte. Je vous le dis, le qui, c'est vous. Le qui, c'est moi. Le véritable problème est ici, pas ailleurs. Comprenez bien que je ne prétends pas qu'aucune circonstance ou aucun événement ne devrait nous contrarier. Bien sûr que si. Être traité injustement devrait nous contrarier. Voir que quelqu'un ne tient pas sa parole devrait nous contrarier. Ne pas recevoir ce que l'on a payé ou gagné justement devrait nous contrarier. Ce que dit Jacques nous ramène en fait au chapitre 3 et à ce que nous avons appris sur la sagesse selon Dieu. Il dit que lorsqu'un conflit survient, une personne vraiment sage est capable de prendre du recul, de respirer profondément et de se dire au moins pour une partie du problème, je suis en tort parce que je n'obtiens pas ce que je désire. Lorsqu'il s'agit de poursuivre ce que nous désirons, la prochaine chose sur laquelle Jacques va nous mettre en garde est le motif de nos désirs. En d'autres termes, pourquoi voulons-nous ce que nous voulons? Reprenons le texte. Jacques 4, 2, 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Voilà le motif de nos désirs. Le mot « passion », à la fin du verset 3, dans la langue originale en grec, est le mot « hédon ». C'est de là que vient le terme « d'hédonisme », qui désigne la philosophie qui considère le plaisir comme l'objectif principal de la vie. L'hédonisme signifie littéralement que je suis mes passions et que je vais m'adonner à ce que je veux. Il s'agit d'un mode de vie qui privilégie le moi, où je fais ce que je veux, où je fais ce qui me rend heureux, où je fais ce qui me fait du bien, sans me soucier des conséquences pour les autres. C'est un mode de vie égocentrique. Au fond, l'hédonisme est une soumission à soi-même. Je vais rechercher ce que je veux, quel qu'en soit le prix, qu'il soit financier, relationnel ou même spirituel. Jacques dit que nous voulions le reconnaître ou non, ces passions sont constamment en guerre. Il dit que ces passions combattent dans nos membres. Si elles sont en guerre, une question se pose. Ma mère me disait toujours ceci quand j'étais enfant. Harrison, il faut deux personnes pour se battre et pour danser. Donc, si d'un côté du champ de bataille, nous avons ses passions, ses désirs et ses envies, alors, avec qui sont-ils en guerre? Jacques nous explique cela très clairement. Il dit que ses désirs et ses envies sont en guerre contre Dieu et son modèle de vie. En d'autres termes, la bataille qui fait rage en nous est en fait une bataille pour la soumission. Vais-je me soumettre à moi-même et à mes désirs, à mes envies et à mes passions, ou vais-je me soumettre à Dieu, à sa parole et à son modèle de vie? Jacques dit que si vous êtes frustré parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est probablement parce que vous vous êtes soumis à la mauvaise chose. La plupart d'entre nous, si nous sommes honnêtes ce matin, ce qui, soit dit en passant, est toujours la bonne chose à faire, si nous sommes honnêtes, la plupart d'entre nous ont déjà été coupables de cela. Mais à quel point sommes-nous prompts à dire la vérité avec nos bouches que nous désirons Dieu, alors que nos actions disent le contraire? Nous finissons par poursuivre nos désirs mondains à la place. Lorsque nous faisons cela, voici ce que Jacques en dit au verset 4. Adultère que vous êtes. Point d'exclamation. Bon sang, Jacques, c'est un peu fort, non? Jacques nous fait savoir que le péché dans notre vie est un sujet avec lequel nous ne pouvons pas nous permettre de jouer. Il poursuit en disant, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » La première loi de l'herméneutique, ou de l'interprétation des Écritures, est que les Écritures révèlent les Écritures. Nous savons par Jean 1, Jean 3, Jean 7 et Jean 8 que Dieu aime le monde, le cosmos, le monde créé. Il aime les peuples du monde. Il ne peut s'agir d'aucune de ces deux premières définitions, alors ce doit être la troisième. La troisième définition, que les auteurs du Nouveau Testament utilisent pour le monde, se réfère au monde spirituel, qui est en opposition à Dieu, mais en rébellion contre son royaume. Jacques dit donc, « Ne cherchez pas l'amitié, ne cherchez pas à trouver un terrain d'entente avec le système appelé le monde, qui est anti-Dieu, anti-royaume, et qui encourage la quête de la chair et de la pensée. » Jésus l'a dit en ces termes, « Vous devez être dans le monde, mais pas du monde. » En d'autres termes, Jésus dit, « Pour l'instant, vous êtes dans le monde physiquement et géographiquement. Vous êtes sur cette sphère, cette planète appelée Terre, mais vous n'êtes pas du monde. Votre origine est différente. » Si nous avons mis notre foi en Christ, s'il est notre Sauveur, la Bible nous dit que notre nature a été littéralement changée. Nous sommes devenus de nouvelles créations en Jésus-Christ. L'ancien a disparu, tout devient nouveau. Notre origine est différente. Lisons ce que dit Jacques au verset 5. « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Il fait référence au fait que maintenant, vous et moi appartenons à Dieu. Dieu nous a rachetés du pouvoir et des systèmes de ce monde. Il nous a donné une nouvelle origine et une nouvelle identité. Notre citoyenneté n'est plus celle d'un pays particulier, mais au ciel. La Bible dit qu'il a retiré notre cœur de pierre endurcie et qu'il nous a donné un nouveau cœur, un cœur de chair. Il nous a scellés et nous a remplis de son Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous ne nous appartenons plus. La Bible dit qu'il chérit son peuple avec jalousie. Imaginez un mariage où deux personnes ne font plus qu'une. J'appartiens désormais à ma femme et ma femme m'appartient. Si je sors de notre mariage, si je poursuis quelqu'un ou quelque chose d'autre, qu'est-ce que cela fait de moi? Un adultère. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce terme quelque part. Jacques le dit au verset 4, « Adultère que vous êtes ». Il dit cela parce que c'est l'image qu'il essaie de transmettre. Lorsque nous avons été sauvés, nous sommes devenus l'épouse de Christ. C'est l'image que nous donne le Nouveau Testament. Nous sommes devenus l'épouse de Christ. Lorsque nous fréquentons ou poursuivons les choses du monde, nous nous retrouvons spirituellement dans la même catégorie appelée adultère. Sauf que dans ce cas, nous trompons Jésus. Et en passant, il est jaloux de son épouse. Lorsque nous courons après les choses du monde, c'est comme si nous disions à Jésus, « Tu ne me suffis pas. Je vais donc poursuivre ce que ce monde a à offrir, que ce soit plus d'argent, plus de célébrité, plus de confort ou plus de réputation. Quoi que ce soit pour vous, vous pouvez l'insérer ici. Nous savons que c'est mal. Et en fin de compte, nous savons que cela blesse le cœur de Dieu. C'est pourquoi je pense que parfois, lorsque nous reprenons nos esprits, nous sommes lents à nous repentir. Nous sommes vraiment lents à nous tourner vers Dieu. Dans notre cœur, c'est presque comme si nous devenions le fils prodigue en Luc 15. Il avait honte de ses actes. Ne sachant pas comment son père allait réagir, il a mis beaucoup trop de temps à retourner chez lui. Je ne peux pas parler pour vous, mais je peux parler pour moi. Je suis passé par là. Je connais très bien ce sentiment. C'est pourquoi j'aime Jacques 4:6. Il, Dieu, m'accorde, au contraire, une grâce plus excellente. Quelqu'un d'autre est-il reconnaissant de la grâce de Dieu dans sa vie? J'ai entendu dire, la miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. Mais la grâce, c'est Dieu qui nous donne les bonnes choses que nous ne méritons pas, c'est-à-dire le pardon, la guérison, la plénitude et la justice devant Dieu. J'aime la façon dont le pasteur Jack Hayford a décrit la grâce de Dieu. Le pasteur Jack, l'un de mes héros, a dit ceci. « La grâce est la faveur imméritée de Dieu qui nous est accordée au moment où nous en avons besoin, en Jésus. » Sa faveur imméritée qui nous est accordée au moment où nous en avons besoin, en Jésus. Jacques 4:6 dit, « Il accorde une grâce plus excellente. » C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ainsi, selon Jacques, la clé pour recevoir la grâce de Dieu est d'adopter une attitude appelée humilité. Cela signifie que lorsque je m'approche de Dieu, je réalise que je n'ai rien à lui offrir. Je n'ai rien à lui offrir, mais tout à recevoir de lui. C'est moi qui dis, « Dieu, je ne peux pas réparer cela tout seul. Dieu, je n'ai pas d'excuse pour mon égarement. » Une vieille chanson dit, « Mon cœur est prompt à errer, à quitter le Dieu que j'aime. » L'humilité nous fait dire, « Je n'ai pas d'excuse. Dieu, j'ai eu tort, pardonne-moi, purifie-moi, cherche-moi, connais-moi, éprouve-moi et rends-moi plus semblable à ton Fils, Jésus. » Jacques dit que si nous nous approchons du Père comme cela, dans l'humilité, Dieu nous accordera sa grâce. D'autre part, elle dit ceci, « Si vous êtes orgueilleux, si vous pensez avoir tout compris, si vous pensez savoir ce qui est le mieux, ou si vous continuez à suivre votre propre voie, Jacques dit que Dieu s'oppose à cette personne. Dieu s'oppose aux orgueilleux. D'ailleurs, une promesse étonnante dans les Écritures déclare que si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous. Si c'est vrai, cela signifie que le contraire est vrai. Si Dieu s'oppose à vous, personne ne peut être pour vous. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Au verset 7 à 10, Jacques donne une clé. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, vous exaltera. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ok, très bien, mais comment puis-je m'approcher? Si vous êtes dans le péché, vous vous approchez en vous repentant humblement. 1 Jean 1,9 dit que si je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Nous confessons donc notre péché dans un humble repentir et nous le remercions pour Jésus. Nous le remercions pour le sang qui a été versé en notre faveur. Nous pouvons également nous rapprocher de lui en passant du temps dans sa parole. Si vous lisez la parole, vous trouverez la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous libérera. Si vous passez du temps dans sa parole, vous vous rapprocherez de Jésus parce qu'il est la parole. Il est la parole faite chair. J'ai presque 40 ans. J'ai beaucoup appris. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ce que je sais avec certitude, ce que je sais avec une clarté parfaite, c'est que tout ce que je veux, ce dont j'ai besoin ou ce que je désire dans cette vie se trouve, s'accomplit et se fortifie dans sa présence. Église, nous devons être le peuple de sa présence. Nous avons cette promesse. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous. Dans les versets 11 et 12, Jacques va s'intéresser à la puissance de nos paroles. Il va s'assurer que nous comprenons bien qu'il y a un lien entre l'humilité dans notre cœur et les mots qui sortent de notre bouche. Versets 11-12. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? » Jacques nous renvoie à une partie antérieure de sa lettre. Il nous ramène au chapitre 3. Il nous rappelle une nouvelle fois le pouvoir de la langue. Nous en avons parlé il y a 2 semaines. Le pasteur Bayless a parlé du pouvoir de la langue. Jacques dit, « Il se souviendra de ce que je vous ai dit. » Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites des autres, parce que ces mots ont le pouvoir de construire, mais également de détruire. Ensuite, il ajoute une autre couche au pouvoir des mots. Il le relie à ce qui se trouve réellement dans notre cœur. C'est presque comme s'il faisait écho à Jésus qui a dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Jacques dit « Tu devrais te préoccuper davantage de juger ce qui se passe dans ton propre cœur, plutôt que de te servir de tes paroles pour juger les autres dans ton orgueil. » Il dit que vous devez faire cela parce qu'il n'y a qu'un seul vrai juge, et c'est Dieu Tout-Puissant. De la même manière que vous jugez les autres, il vous jugera. Il a le pouvoir de sauver ou de détruire. Jacques fait une dernière remarque dans ce chapitre sur le thème de l'humilité. Nous allons conclure sur ce point, versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. J'aime cette question. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques conclut ici avec un dernier mot sur le danger de planifier notre vie sans reconnaître la souveraineté de Dieu sur notre vie. Bien souvent, dans notre orgueil, nous ne pensons pas à l'éternité. Nous ne pensons pas à la vie à venir. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai tendance à être tellement absorbé par le présent et par le fait de me créer une vie ici et maintenant que j'oublie de lever les yeux. J'oublie que je ne tiens pas le pouvoir de ma vie dans ma main. Nous sommes parfois tellement concentrés sur ce qui est à l'ordre du jour pour demain, accumuler des richesses, accumuler des possessions et des choses, que nous ne réalisons pas que demain n'est promis à personne. Jacques dit que notre vie sur terre est comme une vapeur, comme un brouillard.
C'est vrai. La vie est si brève et si fragile. L'éternité est si longue qu'il est ridicule de concentrer toute notre énergie et tout notre temps sur cette vie. On dit que cette vie est le vestiaire de l'éternité. Je vis cette vie et j'en profite. Je sers Dieu, j'aime ma famille et mes amis. Mais je me prépare aussi pour la vie à venir. Les décisions que je prends et les choses que je les fais en pensant à l'éternité. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ et nous rendrons compte de notre vie et des œuvres que nous aurons accomplies dans notre corps, en bien ou en mal, disent les Écritures. Il n'y a pas moyen d'y échapper, mon ami. Alors si vous ne vivez pas en pensant à l'éternité, vous devez commencer à y réfléchir. Ce n'est pas du temps perdu. Je vous aime et j'espère vous revoir.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr/espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.